Et on est chanceux d'avoir quelqu'un qui connaît tout le milieu politique, puis bien des gens impliqués dans la politique locale ici. Mais là, même au niveau provincial, avec ce qui est annoncé pour Robert Bussière, Françoise Boivin, bonjour.
Hey, bonjour, Pierre Donnet.
Vous connaissez tout le monde, vous?
Pas mal. J'en connais pas mal. Ben pas tout le monde, mais j'en connais pas une grosse gang en politique. Puis mais... t'as bien raison de dire de tous les niveaux.
Bon, Monsieur Bussière. Qui est-il, oui. Puis pourquoi est-ce que c'est une bonne prise pour la CAQ?
Ben, je vais te dire que c'est une excellente prise pour la CAQ en termes de ce qu'on appelle nom connu. C'est un nom qui va sonner une cloche dans la tête de beaucoup de gens et particulièrement dans la région et dans le coin qu'il va représenter. Tu sais, parce que bien souvent, on parachute du monde à droite pas à gauche. Je me souviens encore de lorsqu'ils ont présenté au niveau de la coalition Avenir Québec le jeune Mathieu Lévesque dans le comté de Chapleau, qui est celui actuellement tenu par occupé par Marc Carrière, le député libéral. On l'a présenté un peu comme un candidat vedette. C'est un jeune du coin, sauf que ça fait une décennie qu'il est à Montréal. Fait que la connexion est pas forte. Fait que souvent, les médias, on s'en donne à cœur joie à poser toutes sortes de questions précises qui embêtent un peu les candidats et faire sortir ce côté-là. Ça sera pas le cas avec Robert Bussière, parce que Robert Bussière, qui est maintenant le candidat pour la coalition Avenir Québec de François Legault, dans la circonscription de Gatineau, pour que les gens se situent, c'est pas la même chose que la circonscription de Gatineau fédérale. C'est le comté qui est actuellement détenu par Stéphanie Vallée, mais qui a annoncé qu'elle prenait sa retraite pour l'instant, là, de la politique provinciale. Donc, c'est un comté qui est ouvert. Ça risque d'être une course intéressante. C'est des coins comme Chelsea, ça part de Maniwaki, et ça va même jusqu'à la Côte d'Azur, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un bon territoire en termes de circonscription. Mais ce qui rend ça intéressant, c'est que c'est Robert Bussière, tu l'as bien dit, c'est l'ancien maire de la municipalité de La Pêche. Aux dernières élections, il s'était présenté, je pense qu'il avait perdu quelque chose contre le maire actuel, là, par 32 votes, quelque chose du genre, mais ça a quand même été le maire de La Pêche de 1997 à 2017. Il a été préfet de la MRC des Collines de l'Outaouais, qui fait partie de la circonscription de Gatineau provinciale entre 2009 et 2017. Donc, c'est quelqu'un qui connaît quand même bien les enjeux de ces coins-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de municipalités dans ce coin-là. Puis c'est pas que excuse-moi, mais j'appelle ça souvent la ronde de lait. Quand tu t'en vas voir toutes tes maires, c'est pas comme quand t'es député de Gatineau, comme dans le temps où je l'étais, t'as un seul maire pour trois secteurs, tu sais, trois endroits que tu représentes, à savoir anciennement une partie de l'ancien Gatineau, puis ça c'est pas la même chose quand tu as juste un interlocuteur devant toi comme député que quand tu en as plusieurs, parce qu'il y en a des municipalités dans le comté de Gatineau au provincial. Donc c'est la première, je dirais, dans la région là, première. Je dis pas que les autres c'est pas des bonnes prises, parce que j'ai toujours dit, écoute, c'est pas parce qu'un candidat est pas connu que ça sera pas un excellent député. Mais là, c'est un signe que même dans l'Outaouais, la CAQ qui trône en avant dans les sondages est en mesure d'aller chercher des candidats qui sont connus de par leur nom, qui ont du vécu, et c'est souvent les tals qui étaient très privilégiés pour le Parti libéral du Québec. Alors, on sent qu'il y a un petit vent qui tourne, on le sent qu'il y a ce vent de changement. Ce qui a affecté l'Ontario risque de se produire aussi au Québec. On l'a vu, il y a eu des sondages qui ont été faits. Il y en a un récent, je sais pas si tu l'avais suivi, mais qui venait de Mainstream Media, qui est pas le dernier venu, parce que c'est eux qui avaient même prévu au niveau fédéral la victoire de Justin Trudeau en 2015, une victoire majoritaire, alors que plusieurs firmes de sondage se gardaient une petite gêne, étaient pas si sûrs que le vote du NPD était pour s'écrouler de cette façon-là. Alors, ces gens-là ont fait un sondage pour le comté de Gatineau, entre autres, avec le départ de Stéphanie Vallée, et ça montrait que la CAQ avait de bonnes chances d'aller chercher le comté de Gatineau avec cette idée très forte que ce qui va être ce qu'on appelle la ballot question, quand tu t'en vas voter, qu'est-ce qui prime pour la personne qui s'en va voter? Et le numéro un, c'était le changement. Numéro deux, c'était vraiment de se débarrasser des libéraux, comme le dit si bien la chanson de Loco Locas. Alors, ça veut dire que ça augure peut-être bien pour le nouveau candidat de la CAQ. En tout cas, ça restera à voir. Mais quand on regarde que pour la CAQ, présentement en Outaouais, on a Mathieu Lévesque pour Chapleau, Rachel Bourdon pour Hall. C'est pas nécessairement des noms qui sont connus dans la population, mais avec l'arrivée d'une personne comme Robert Bussière, ça risque de monter la cote, ce qui va faire que des gens, on le sait, parce que tu vas me dire, l'Outaouais, ça vote toujours rouge. Oui et non, ça s'est déjà vu autre chose, et on verra si la table est mise pour que ce qui risque de se passer ailleurs au Québec se produise aussi en Outaouais. Je te prédis que si ça arrivait en Outaouais,
ça va être
la débandade pour Parti libéral à travers le Québec et fort probablement pour le Parti québécois aussi.
Bon, alors ça sera à suivre. Chez les Premières Nations aussi, c'était une période électorale. Perry Bellegarde qui est réélu. Qu'est-ce qui vous attire une réflexion là-dessus?
Ben, ce qui m'attire une réflexion, parce que souvent on s'intéresse plus ou moins, on se dit, ah, c'est les Premières Nations, c'est leurs affaires. Il y a quand même des dossiers, puis on le sait qu'on a toujours le cœur sur la main quand on voit la situation dans certaines réserves, comment certaines Premières Nations vivent. Tu sais, tu parlais tantôt de logements sociaux puis de seuil de pauvreté. On le sait, puis c'est pas nécessairement le cas des chefs, là. Je vois bien des gens qui m'écoutent dire, hey, ces gens-là reçoivent des centaines de millions, pour pas dire plus, de la part du gouvernement fédéral. Comment se fait-il qu'il y a encore tellement de ces peuples-là qui vivent dans des conditions absolument épouvantables, pas d'eau potable, pas de nourriture accessible, en tout cas, en veux-tu, en v'là. Ce qui m'attirait, c'était justement le fait qu'il y aura quand même deux dossiers intéressants qui vont être au premier chef pour les Premières Nations. Il y a le dossier des femmes qui ont été tuées, disparues. La commission va devoir sortir son rapport parce que finalement, on a mis un point final à tout ça. Les écouter, il aurait fallu continuer encore je ne sais pas combien d'années.
Deux ans. Il voulait deux ans.
En tout cas, je ne veux pas me partir là-dessus parce que ça me craint tellement, puis pas par manque de respect pour la question. C'est qu'on le sait, elle est où la problématique, on sait ce qu'on doit faire, et moi je suis une allergique à la commissionnite aiguë qui souvent ne fait que repousser le temps de prendre des décisions, puis d'enfin faire quelque chose, d'agir au lieu de juste faire du placotage de bas étage qui rime pas à grand chose, puis bien souvent que c'est pas les personnes qui devraient être vues dans ces commissions-là. Alors le rapport devra sortir, je l'espère fortement. J'espère qu'on aura des recommandations et c'est certain que l'Assemblée des Premières Nations aura son mot à dire là-dessus. Il y a toute la question du pipeline. Je t'en parlais hier avec Trans Mountain. Ça me fait sourire parce que il y avait une histoire qui sortait qu'il faut qu'il y ait l'autorisation d'un comité sur la sécurité américaine par rapport à l'entente entre la compagnie Kinder Morgan et le gouvernement canadien. Puis connaissant l'humeur de Donald Trump, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de tout ça. Bon. Et plus encore, juste avant que vous m'appeliez ici à la station, je recevais un appel à la maison de ma mère et c'était un sondage, crois-le ou non, du gouvernement albertain pour savoir l'opinion de la maison sur un pipeline qui partirait de l'Alberta vers la Colombie-Britannique. Et j'ai dit, pour moi, là, on va essayer de faire une offensive de charme. Alors, ça aussi, les Premières Nations vont être appelées à s'exprimer là-dessus. Ils ont besoin d'un chef fort. Et je vais te dire, Perry Bellegarde, je pensais bien qu'il était pour être réélu. Écoute, d'habitude, ils font deux mandats, à tout le moins, ces chefs-là. Mais il y avait quand même de la compétition. Il y avait Sheila North, qui est une grande chef du Manitoba, qui était sa plus forte adversaire. Ça, évidemment, il y a toujours du chialage. Quand il y a des élections, il y a toujours des gens qui sont heureux, des gens qui le sont moins. La ministre Caroline Bennett, que tu connais bien, était dans les parages. On l'avait invitée pour venir parler de quelque chose. Il y en a qui ont dit que c'était de l'ingérence fédérale. Moi, j'aime ça, ces petites affaires-là, quand ça commence à barder à droite et à gauche. Mais le mot final, c'est clairement que le chef Perry Bellegarde, qui est quand même assez bien perçu du gouvernement de Justin Trudeau, et c'est peut-être le reproche que certains chefs, certains grands chefs lui faisaient, c'est que il était peut-être trop près du gouvernement libéral, puis ça, les grands chefs aiment pas bien ça.
Exactement.
Mais entre toi et moi, la plupart des grands chefs ont toujours été assez près des gouvernements, parce que quand tu te retrouves en position de demander et de demander souvent des centaines de millions de dollars, ben t'es mieux de pas être perçu comme un ennemi, parce que mettons que la bourse se délie moins vite dans
parlant d'ennemis, tout à l'heure, le coup de téléphone que j'avais reçu, je pensais que c'était, moi, Trump qui appelait pour savoir si vous étiez en train d'écouter CNN.
Ah, ben là, je n'aurais
pas ça, là, lui.
Moi, personnellement, là, petite parenthèse avant de parler de sa femme, à Donald Trump, mais autant Fox que CNN, je ne suis plus capable. Autant un est boqué du côté de Trump avec, je veux bien là qu'il y ait de l'exagération de certains côtés, mais l'exagération, peu importe le côté, c'est quand même de l'exagération. Mais quand c'est rendu, moi dire Donald Trump, là, il peut-tu faire assez réagir quand c'est rendu que
mais
dans le New York Times, ça fait une grosse histoire qu'il y a eu, semble-t-il, tout un coup d'éclat dans le Air Force One, qui est l'avion du président des États-Unis. Il était avec sa femme. Elle était dans ses petits quartiers et il semble-t-il que sa télé était à CNN, qui est le symbole de ce que Donald Trump appelle les fausses nouvelles, les fameuses fake news. Et ça a l'air que ça a bardé. Et là, ben, ça a fait jaser. Il y a eu un article dans le New York Times, le Washington Post qui est allergique à Donald Trump puis qui s'en paye à cœur. Je pense que le Washington Post devrait se renommer le journal anti-Trump par excellence, parce qu'ils en ont que sur lui ou que pour lui ou que contre lui, je devrais dire. Alors, ils ont repris tout ça. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que la porte-parole de Melania a dit tout simplement, regarde, la première dame, là, elle va bien écouter le poste qu'elle veut. Et ça finit là. Puis vous autres, les médias, peut-être que vous pourriez vous intéresser aux causes de la première dame plutôt que de savoir quel poste qu'elle écoute à la télévision. Puis c'est vrai qu'aux États-Unis, présentement, on manque l'essentiel, parce que puis ça, c'est en grande partie à cause de Trump lui-même, entre toi et moi, là. Juste à lire ses tweets, ça vole pas haut. Donc, il donne le ton, puis c'est le ton que les médias prennent avec lui, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas. Et pendant ce temps-là, il y a un paquet de dossiers dont on ne parle pas, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus au poste de télévision que Melania écoute.
C'est brillant de sa part pour créer une sorte de diversion. Alors, les gens se préoccupent de choses qui sont pas véritablement importantes, mais nous, on vous aime, Françoise.
Ah, t'es gentil, mon Pierre. C'était juste pour vous montrer comment on tombe dans le ridicule parfois.
Et on se reparle demain. Et on se reparle demain. Il est 16h26.